Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une passion française, un symbole de notre art de vivre, une culture, une façon de vivre ensemble que l'on retrouve dans toutes ces expressions pleines de joie, comme prendre l'apéro, faire la fête, boire un coup, trinquer. Un lexique qui désigne en réalité une façon socialement acceptable de consommer de l'alcool en société et en abondance. En 2014, la France était encore un des plus gros buveurs d'alcool au monde, du moins au sein des 34 pays de la zone OCDE. La consommation est certes en baisse depuis une vingtaine d'années, mais elle reste quelque part nichée dans notre identité, valorisée par la poésie, la littérature et pas la pire. Boire est une expression de santé parfois, de virilité presque, de libération, un impératif catégorique de la vie sociale et professionnelle. En gros, une drogue dure, socialement valorisée et banalisée. Au travail, la prise d'alcool est souvent proportionnelle à la pénibilité de la tâche. D'après une étude de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, on boit davantage dans le bâtiment, l'agriculture, la manutention, ainsi que dans les professions en rapport avec le public. En société, on boit par ailleurs à tous les moments de la journée et toutes les occasions. Certains prétendent même que l'alcool fait disparaître les classes sociales. Je l'ai lu sur le site Vivre mieux ensemble à la rubrique Prendre l'apéro à la française. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, deux histoires d'alcool et comment elles s'en sont sorties. Oui, ce sont deux femmes. Allez, ça s'arrose. Tout de suite, un reportage de Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Vanessa, j'ai 35 ans. Je suis assistante administrative dans l'environnement. Mon premier verre, c'était à 19 ans et demi. Je ne savais pas quel goût ça avait l'alcool avant. C'était apéro le vendredi soir, après la semaine de labeur. Apéro le samedi soir. Et voilà, c'était sympa avec mon copain. C'était normal. Après, c'était des apéros qui devenaient... C'était plus un apéro, en fait. C'était de plus en plus fréquent. Et aussi en quantité, c'était de plus en plus important. Ça devenait le repas. Au début, je m'en suis pas rendu compte. Tu te lèves le matin, t'as la gueule de bois, un jour sur deux, c'est normal, quoi. Enfin, à un moment, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais t'as la gueule de bois quand même tous les deux jours. Et je me souviens, c'était un matin, un week-end, j'étais allongée dans mon lit, j'ai ouvert les yeux et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me détestais, je me haïssais, je culpabilisais, je me dégoûtais, en fait. Je pleurais le matin en me levant, je pleurais le soir en me couchant. J'étais pas bien, j'étais malheureuse, je voyais rien, j'étais abattue en permanence. C'était plus possible, je voulais plus. Pour arrêter l'alcool, j'ai pris des médicaments, des benzos. Bon, ça rend la vie un peu en rose bonbon, ça te calme tes émotions, t'es ni joyeux ni malheureux. Au début, il y a une prescription médicale, sauf que j'allais un petit peu parfois au-delà de la prescription médicale. J'étais un peu shootée tous les jours. J'ai fait une rechute peu de temps après en fumant du shit. Je me suis retrouvée aux urgences, j'étais complètement décalquée, défoncée. Cette période-là, il y a eu aussi beaucoup avec le sexe, avec n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. C'était obsessionnel, c'était excessif. Toujours sans se protéger, bien évidemment. Ça te vient comme ça, tu sais pas trop d'où ça vient et puis voilà, il faut. C'est plaisant parce que tu te rends compte que tu plais. Et puis t'en essayes un. Il te convient pas trop, donc one shot, tu vires, tu prends un deuxième, puis tu prends un troisième, puis tu prends un quatrième. Puis des fois, tu prends le quatrième, le cinquième et le sixième en même temps. Il y a une espèce de vide à vouloir remplir par tout et n'importe quoi, souvent par du grand n'importe quoi. Une addiction à chasser l'autre, voilà. Donc j'ai fait une cure qui dure 15 jours. Ensuite, il y a eu 7 semaines de post-cure et c'est là que j'ai compris que j'avais une maladie. J'ai aussi compris que c'était une maladie qui allait au-delà de l'alcool, que c'était un problème beaucoup plus général et beaucoup plus large. C'est donc la maladie de la dépendance. Et j'ai découvert Narcotique Anonyme, qui aide les dépendants à devenir et à rester abstinents et à se rétablir. Aujourd'hui, donc ça fait 3 ans que je connais Narcotique Anonyme, ça fait 3 ans où j'y vais. Un souvenir fort de cette première réunion, c'est seulement l'émotion que j'ai ressentie. Le thème, je ne m'en souviens pas, je me souviens de quelques têtes, mais alors c'est très vague. J'étais toute chamboulée, parce que forcément, mais je me sentais bien, je me sentais heureuse, et je me suis dit, ici, c'est chez moi, ici, je peux m'exprimer, ici, je peux être moi, sans être jugée, à la première réunion. Moi, j'ai grandi dans une famille où il fallait se taire, il fallait surtout rien dire. J'avais pas le droit de la parole, et encore moins de ce que je pensais, quoi. Dire que t'es malheureuse dans ta vie parce que ton mec, il te baisse pas... j'ai réussi à le dire, j'étais malheureuse à cause de ça, j'étais malheureuse dans ma vie de couple, et que c'était ça qui m'avait fait consommer, quoi. Je suis fière de moi, parce que ça demande beaucoup de courage, et je suis fière de moi d'être retournée une deuxième fois, de m'être autorisée ça. Il y a des moments où je suis pas bien, il y a une émotion, moi c'est beaucoup la colère... j'ai envie de consommer, ça vient, hein, c'est une obsession, c'est une espèce de flash, ça vient, c'est compulsif, c'est plus fort que tout. À l'intérieur de moi, je sais que c'est pas une solution. Et donc, pour faire passer cette envie, j'appelle, je demande à l'aide, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est ça qui est bien, un narcotique anonyme, c'est qu'on... Moi, on m'a donné des numéros, et on m'a dit, ça va pas, t'appelles. Donc, il y a 2 ans, j'allais pas bien, j'ai pas appelé. J'ai fait une rechute, donc avec le shit. J'ai appelé après avoir consommé. Les fois suivantes, j'ai appelé avant de consommer. Ça a été toute la différence. Et juste un appel, une petite discussion, parfois ça peut même être juste 2 minutes, c'est largement suffisant et l'envie, elle passe. Parce que c'est la maladie d'oubli. Moi, j'oublie, hein, pourquoi faut pas que je consomme, hein. Moi, j'oublie, hein, quand j'ai envie. Et c'est tellement puissant que... Depuis 3 ans que j'ai commencé de me rétablir, voilà, ce chemin, j'ai appris à conduire. Je me suis acheté une voiture. Ma première voiture, c'était... je l'ai achetée 500 balles. Elle ressemblait à rien. J'ai fait de la mécanique dessus, le truc que je ne pensais pas que c'était possible. Et je me suis vraiment éclatée. J'ai changé de métier aussi, qui ne me convenait pas, où je pleurais, où j'étais malheureuse. Donc j'ai changé de métier, je l'ai choisi. Je me suis trouvé un nouvel appartement qui est tout mignon, tout coquet. Il y a une chose que j'ai comprise, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un endroit où je ne suis pas bien, je ne suis pas obligée de rester. Je choisis ma vie.
J'ai 57 ans, bientôt. Je suis veuve, j'ai pas d'enfant. J'ai fait une très belle carrière professionnelle jusqu'au jour où je vais tout perdre. Je me souviens très bien de mon premier verre d'alcool et surtout de mes plusieurs verres d'alcool. Je devais avoir 12-13 ans. Et dans ma famille, qui est une famille aisée, il est courant d'avoir des bonnes bouteilles de vin. Et donc, très petite, on me faisait goûter le vin blanc pour l'entrée, le vin rouge pour le plat du milieu, et ensuite, eh bien, le champagne pour le dessert. Et j'en ai un souvenir très, très présent. J'étais dans un foyer qui se déchirait, j'avais des frères et sœurs compliqués, nous avions des problèmes d'argent, enfin, j'étais pas heureuse. C'était une des raisons pour lesquelles je partais. C'était facile parce que maman avait 6 enfants, donc elle ne pouvait pas avoir un œil sur tous. Et je suis tombée dans des groupes de jeunes plus âgés que moi. Et là, c'était les guindailles, c'était déjà les bitures, c'est-à-dire, à moi la tchotte, on m'appelait la tchotte, hein, je suis du nord de la France, on m'offrait des cocktails sucrés. Je fais mes études et j'ai cette chance d'avoir de belles facultés intellectuelles, je travaille pas du tout. Par contre, j'ai une mémoire extraordinaire et en 3 jours, je peux rattraper, en 3 nuits de labeur, je peux rattraper 1 mois ou 2 de non-travail. Donc ça, c'est pas un exemple. Hein. Donc ça a fonctionné. J'ai fait une année de médecine et je l'ai échoué, je le regrette. Ensuite, j'ai changé de voie, je suis partie dans le droit. Et là, j'ai réussi très facilement 5 années de suite à Lille. Je me suis spécialisée en urbanisme et aménagement du territoire. Et très rapidement, j'ai trouvé du travail. Je découvre le milieu professionnel, l'immobilier, le BTP. L'alcool est très présent. C'est l'alcool social, c'est l'alcool festif. C'est du bon alcool, ce sont des bonnes bouteilles, à nouveau. Je vois encore certains présidents dire « j'ai fait remonter de la cave de la société » parce qu'ils ont des sacrées caves. Un Rothschild, je sais pas quoi, etc. Et donc là, on était plusieurs cadres. Bien sûr, moi, j'étais rédactrice juridique, hein, j'étais toute petite, mais tous mes supérieurs levaient leur verre et je me vois pas ne pas le faire. Je deviens chef juridique, après je deviens directeur juridique, après je deviens secrétaire général, après je deviens directeur des risques. À chaque fois, j'accède à des niveaux avec des cadres supérieurs qui m'impressionnaient. J'avais pas à me faire de soucis parce que je travaillais énormément, mes résultats étaient là, mes dossiers étaient carrés, mais il n'empêche que j'avais besoin de plus en plus de cet alcool pour désamorcer mes angoisses professionnelles. Dans le cadre de mes fonctions, je voyageais beaucoup. J'ai quasiment fait tous les pays. J'ai même fait la Chine, et quand je suis partie 6 mois en Chine. Hein. Donc dans un bel hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, où là, c'est bien gentil, les journées sont remplies, mais le soir vous faites quoi? Donc c'est aussi l'ennui, la solitude, l'isolement, le poids des responsabilités qui font que vous ouvrez le minibar. Et là, vous avez tout ce qu'il faut en alcool, et puis s'il y en a pas assez, bah, vous appelez la réception et vous vous faites monter une bouteille. Donc c'est comme ça que ça a commencé mon alcoolisme. Je prends l'avion classe affaires, la première chose que va vous proposer le steward, c'est si vous êtes bien installé, si vous voulez une coupe de champagne. Et c'est pas une, c'est 5 que je prenais. Et puis après, le steward, éventuellement, il en prenait une avec moi. Vous savez, l'alcool est partout, et arrivé au stade professionnel où j'étais, il est de qualité, il est à volonté, il est gratuit. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
À 36 ans, 37 ans, là, je sais que j'ai les symptômes de la malade. Bon, chaque matin, c'est une obsession. C'est quels sont mes rendez-vous? Quand vais-je pouvoir boire? Est-ce que je vais pouvoir assumer ce rendez-vous? Ou alors parfois, attention, là c'est trop important. C'est quand même non. C'est dans un ministère, donc il faut que tu sois sobre. On se fait un effort, etc. Donc qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Dans mon sac à main, j'ai ma petite fiole de vodka orange. Je vous demanderai très simplement, tiens, on peut faire un petit break de 5 minutes, d'accord? Et je passe aux toilettes, là je prends 3-4 gorgées de jus d'orange, je croque un grain de café et puis je reviens. Moi j'étais arrivée à un tel stade de ma consommation que je buvais seule. Mais oui, j'avais compris, ça jasait autour de moi. Personne m'en parlait, mais ça jasait quand même. Mais je suis pas bête, j'ai pas envie de perdre mes privilèges, mon poste, puisque je suis une femme passionnée. Donc je me dis, bon, Laurence, tu vas faire un effort, tu vas boire 4-5 coupes, et quand c'est trop dur, c'est tout, tu quittes la réception, tu peux très bien avoir, moi après tout, je m'imaginais 4 enfants dans les jambes, de la nounou qui vient pas, etc. Donc tu t'inventes un truc comme ça. J'arrivais chez moi, et je continuais seule. « je suis une femme très sportive. Donc je faisais attention à mon corps. En plus, je mangeais très peu. Parce que, justement, je voulais quand même garder une certaine ligne. Donc je me dis, bon, comme tu bois beaucoup, c'est déjà beaucoup de calories. C'est pas la peine d'en rajouter avec de la nourriture. Mais surtout, j'avais aussi compris que plus vous êtes à jeun, plus l'alcool va dans le sang et plus les effets de l'alcool que vous recherchez arrivent au cerveau. Mais j'étais gorgée d'alcool dans les veines. Je me souviens très bien, quand j'étais alcoolisée, ça se voyait physiquement. J'étais bouffie le matin avec des cernes, des yeux veinés. La bouche, sans doute aussi la laine, quoi qu'on dise, c'est pas le grain de café qui va tout masquer. Les cheveux ternes, voire mal brossés, enfin même un peu gras. Après le corps bouffi, surtout les mains qui tremblent. De toutes les façons, j'arrivais plus à le cacher. J'avais beau mettre du fond de teint, j'avais beau... ça se voit. Et j'étais quand même pas dans n'importe quel groupe. Mon dernier poste, c'est chez Vinci, comme directeur des risques. À 3 mètres en face, c'est le bureau du DRH. Voilà. Mais je ne me souviens pas l'avoir vu rentrer dans mon bureau et me dire « Laurence, vous avez peut-être un problème avec l'alcool, on peut vous aider. » Et j'ai compris que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on va cacher le problème de l'alcoolisme. J'ai tout perdu. C'est le 23 janvier 2009, à midi et demi, à la cérémonie des vœux, où, devant 650 cadres supérieurs, je vais m'effondrer ivre morte. J'étais dans un bâtiment qui était en cours de rénovation. Il faisait très froid. Beaucoup de courants d'air. Nous attendions avec impatience, en tout cas moi j'attendais avec impatience les discours. Le président est arrivé avec une heure de retard et dès le départ, on nous a présenté des boissons alcoolisées. Il n'y avait pas de jus de fruits. Moi ce jour-là, j'avais décidé de ne pas boire. C'était le 23 janvier et j'avais pris la décision de me soigner. J'avais appelé un centre d'addictologie à Saint-Cloud. Et j'allais rentrer le 14 février avec ma valise. Et j'avais prévenu mes plus proches collègues, je vous en prie, ne me proposez pas d'alcool. Je leur avais pas dit que j'allais rentrer à l'hôpital, mais je leur avais dit, je vous en prie. Or, voilà, les plateaux se baladent autour de moi. Au début, je résiste en disant non merci, non merci. Mais la troisième fois, je me souviens toujours, je vois encore le geste de la personne dont je tairai le nom, qui me dit « Allez, prends une coupe, de toutes les façons, je suis là, ne t'inquiète pas. Voilà. » Après, ça a été très vite. Après, vous savez, quand on est drogué à l'alcool, c'est 1, 2, 3, et puis après, on rigole, et puis après, c'est une bouteille, et puis après, c'est 2 bouteilles. Je me souviens avoir croisé, enfin, le grand président. Son discours était « Voilà, c'est la crise, on était au début de la crise financière en 2009, il va falloir resserrer les rangs et il faut en profiter pour licencier les gens qui ne servent plus à grand-chose. » Et moi, j'avais été très choquée, et l'alcool aidant, je lui ai dit « Écoutez, moi, je ne partage pas votre point de vue, et j'étais cadre supérieur. Hein. Je pense au contraire qu'il faut faire des économies, mais ailleurs. » Bref, j'étais tout à fait à côté de la plaque. Je me souviens, je le vois encore opiner du bonnet, mais après je me souviens que le DRH me prend par derrière et m'écarte avec une autre personne. Et c'est certain que dans ces milieux-là, vous savez, déjà approcher le grand président, voilà, ça se fait pas forcément. J'étais tellement fière de lui avoir dit ce que je pensais sur le cœur que après j'ai continué à consommer et je vais m'effondrer. Le corps lâche. Je m'effondre, je reste par terre. Je ferme les yeux, là j'ai un trou noir, le blackout complet. Je crois que ça a duré plusieurs minutes. Je rouvre les yeux, je vois les gens partir surtout. Je vois pas des gens m'aider, j'essaie de me relever, on me lève pas. Donc je sais plus si c'est des secondes ou des minutes, mais en tout cas c'est une éternité pour moi. Je ne me rends pas bien compte encore de ce qui se passe. Hein. Je suis dans les vapes. Et puis là, une personne. Et en plus, c'est la personne qui m'a proposé la coupe de champagne, la première, qui va me relever. Donc, je ne peux pas lui en vouloir à ce monsieur. Il est là. Il me relève. Il m'entraîne vers les toilettes. Là, il me serre dans ses bras. Il me m'asperge d'eau, etc. Il me met dans sa voiture et il me reconduit dans mon bureau. Je vais me retrouver. Donc, je vais m'étendre sur la moquette, moi. Je vais dormir une paire d'heures. Personne ne se préoccupe de savoir ce que je suis devenue. Et je fais 30 km sur le périph pour repartir chez moi dans le 14e avenue du Maine. À minuit, je vois mon BlackBerry plein de messages. Laurence, t'es où, etc. Et là, je commence seulement à réaliser la catastrophe. Jusque maintenant, j'avais tout consacré à ma carrière professionnelle. Et là, ça a été ma chute. Voilà. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma dignité de femme, mon travail. J'ai tout perdu, sauf la vie. Je règle les derniers papiers. Je me réalcoolise jusqu'à la limite de nouveau s'effondrer. Mais mon idée était très claire. Je voulais aller me jeter sous les rames du métro à d'enfer Rochereau, qui était à côté. Je sors pour passer une dernière fois là où je picolais, le Zeyer. Et là, j'entends la cloche de l'église Saint-Pierre de Montrouge. J'étais alcoolisée, puis je dis, tiens, je vais faire un dernier tour à l'église. Je me mets au dernier rang. Je vois que vous rigolez, mais c'est vrai qu'elle est rigolote, cette histoire, parce que je me mets au dernier rang alcoolisée. D'accord ? Il restait une place. Et là, je commence à écouter le prêtre. Parce qu'en fait, je suis croyante. Mais j'avais pu être dans une église depuis la mort de mon mari, depuis l'enterrement. Donc c'est pas mal, ça faisait 12 ans. Je suis presque un peu dans un autre monde. Ça continue à chanter autour de moi. Et tout doucement, l'idée du suicide est en train de s'évaporer. Comme les effets de l'alcool d'ailleurs. Et dans ma petite tête, il y a une petite voix qui dit « Démerde-toi, moi j'ai tout essayé, la balle est dans ton camp. » Et en fait, je m'adressais à Dieu. Après, c'est très flou parce que je pense que je suis restée un long moment, peut-être une heure. Je suis sortie, il faisait noir, je repasse devant le Zeyer, mais je le regarde comme si, dans une indifférence complète. J'avais complètement oublié mon projet de départ. Je redescends la rue d'Alésia, je vais à mon appartement, je vais dans la cuisine, je vide les bouteilles d'alcool dans l'évier, toutes les bouteilles d'alcool qui restaient. Je m'allonge et je ferme les yeux. Et c'était il y a 10 ans et je n'ai plus bu une goutte d'alcool. Voilà. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, un miracle peut-être, j'en sais rien. Ça a été le déclic. Ensuite, bien sûr que j'ai dû me faire aider. J'ai eu recours à un médecin addictologue et ensuite à un gros travail psychothérapeutique. Mais on n'oublie jamais les souvenirs que je viens d'évoquer. Certes, j'ai tout perdu. Je ne suis plus la directrice supérieure du grand groupe Vinci. Ou voilà, j'ai pas retrouvé du travail puisque j'ai bien compris aussi qu'être alcoolique, vous voyez, c'est presque une balafre en pleine figure. C'est une tare et il y a le fameux dicton qui a bu boira. Donc j'assume ce que j'ai été. Non. Par contre, quelque part, je suis un peu fière de ce que je suis devenue. You might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles.
L'alcool n'est pas une fête. C'était un reportage de Leïla Djitli réalisé par Yaël Mandelbaum. Merci à Frédéric, à Philippe Oliva et à Laurence Cotet qui avait déjà raconté une partie de son histoire, je le précise, à Stéphanie Thomas dans Un pied sur terre de 2015. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire. I needed. I'm alone in my world. Now you help her. My world's the only thing I truly need. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Woman, woman, woman.
Woman, 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 woman.